Nous ferons la lecture ce soir du psaume 8e. Le psaume 8. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Tu as mis ta majesté au-dessus des cieux. Par la bouche des petits-enfants et de ceux qui t'aident, tu as fondé ta force ou ta louange à cause de tes adversaires, afin de réduire au silence l'ennemi et le vengeur. Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées, qu'est-ce que l'homme? Que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme que tu le visites. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Les brebis et les bœufs tous ensemble et aussi les bêtes des champs. L'oiseau des cieux, les poissons de la mer, ceux qui passent par les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Un second passage dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont endormis. Car puisque la mort est par l'homme, c'est par l'homme aussi que la résurrection des morts. Car comme dans l'Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ tous seront rendus vivants. Mais chacun dans son propre rang, les prémices Christ, puis ceux qui sont du Christ à sa venue, ensuite la fin, quand il aura remis le royaume à Dieu le Père, quand il aura aboli toute principauté, et toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort, car il a assujetti toutes choses sous ses pieds. Or, quand il dit que toutes choses sont assujetties, il est évident que c'est à l'exclusion de celui qui lui a assujetti toutes choses. Mais quand toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Et un dernier passage dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, au verset 5, ce n'est point aux anges qu'il a assujetti le monde habité à venir dont nous parlons, mais quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part disant, qu'est-ce que l'homme, que tu te souviennes de lui ou le fils de l'homme, que tu le visites, tu l'as fait un peu moindre que les anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as assujetti toutes choses sous ses pieds, car en lui assujettissant toutes choses, il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Mais maintenant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient assujetties, mais nous voyons Jésus, qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur, en sorte que par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour tout, car il convenait pour Dieu, à cause de qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, que amenant plusieurs fils à la gloire, il consomma le chef de leur salut par des souffrances. Car est celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, disant, j'annoncerai ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée, je chanterai des louanges, et encore moi, je me confierai en lui, et encore me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Donc les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a participé, afin que par la mort il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte de la mort étaient, pendant toute leur vie, assujettis à la servitude. Car certes il ne prend pas les anges, il prend la semence d'Abraham. C'est pourquoi il dut en toutes choses être rendu semblable à ses frères, afin qu'il fût un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur dans les choses qui concernent Dieu, pour faire propitiation pour les péchés du peuple. Car en ce qu'il a souffert lui-même, étant tenté, il est à même de secourir ceux qui sont tentés. Le psaume 8e est un psaume messianique. Dans le livre des 150 psaumes, il y a plusieurs psaumes qui revêtent ce caractère. Ce sont les psaumes dits messianiques, c'est-à-dire ces psaumes qui annoncent d'une part la venue d'un Messie qui devrait souffrir et mourir sur cette terre. Et d'autre part, des psaumes annonçant l'arrivée d'un Messie glorieux qui devrait juger et qui devrait régner sur cette terre. Autrement dit, les psaumes messianiques sont d'une part des psaumes qui annoncent l'humiliation du Messie ou du Christ, et d'autre part, des psaumes qui annoncent la gloire du Messie, la gloire du Christ, la gloire dans laquelle il allait entrer, cette gloire qu'il établira sur la terre habitée tout entière. Quels sont les principaux psaumes, nous parlant de l'humiliation du Messie qui allait venir? C'est le psaume 22e. C'est le psaume 40e, c'est le psaume 69, c'est le psaume 102. Et quels sont les autres psaumes qui parlent de la gloire du Seigneur, dans laquelle il entrera d'une manière éclatante, visible à tous? Ce sont les psaumes 2, le psaume que nous venons de lire, le psaume 8, le psaume 24, le psaume 45, le psaume 72, et enfin, le psaume qui est le plus souvent cité dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire le psaume 110. Le psaume 8e est tout d'abord un hommage rendu à la création et à son Créateur. Et si nous n'avions que le psaume 8e, chers amis, nous n'irions pas au-delà de cette pensée. Mais nous sommes conduits par les Écritures du Nouveau Testament, les deux passages que nous avons lus, 1er Épître aux Corinthiens, Épître aux Hébreux, nous sommes amenés à voir quelque chose de supérieur. Le psaume 8 n'est pas seulement un hommage rendu à la merveilleuse création de Dieu, et en même temps à la merveilleuse création de l'homme, mais c'est quelque chose de bien davantage, et les deux passages de la première épître aux Corinthiens et de l'épître aux Hébreux nous montrent qu'en fait, le psaume 8e nous parle, c'est vrai, en quelques mots, mais nous parle de l'humiliation de Jésus et alors de son élévation et de sa suprématie sur toute chose. Nous voyons Jésus, avons-nous lu dans l'Épître aux Hébreux. C'est ce à quoi l'auteur de l'Épître voulait amener les frères auxquels il s'adresse, les frères hébreux. Il les amène d'un bout à l'autre de cet Épître à la personne de Jésus. Il faut qu'ils aient affaire avec Jésus. Et l'un des nombreux témoignages cités par lui de l'Ancien Testament est précisément ce psaume 8e. Nous voyons Jésus. Disons-le, dans le Nouveau Testament, nous avons donc ces deux citations, Ces deux citations du psaume 8, 1 Corinthiens 15 et Hébreux 2, nous avons également une allusion à cet assujettissement de toutes choses au Seigneur. Cela se trouve dans l'Épître aux Éphésiens à la fin du premier chapitre. Il a assujetti, il a mis toutes choses sous ses pieds, est-il dit. Mais ceci en rapport avec le peuple céleste de Dieu, afin qu'il soit au-dessus, qu'il soit le commencement, le premier de l'Église, de l'épouse, l'épouse de Christ. Et enfin, il y a une citation également du psaume 8 en rapport avec la louange des enfants. Ce passage est dans le chapitre 21 de l'Évangile selon Matthieu. C'est là que nous voyons des enfants qui crient en voyant le Seigneur Jésus et qui disent « Hosanna, gloire au fils de David ». Le Seigneur répond alors par la citation « Savez-vous pas ?» dit-il aux scribes, aux sacrificateurs, « Vous ne savez pas ce qui est écrit dans le livre des psaumes ?» Il est écrit ceci, que Dieu lui-même, par les petits-enfants, a établi sa louange. C'est ce que nous avons donc au verset deuxième. Par la bouche des petits-enfants et ceux qui t'aident, tu as fondé ta force sous ta louange, à cause de tes adversaires, afin de réduire au silence l'ennemi et le vengeur. Il fait beau lire, chers amis, cette mention des enfants, des petits-enfants, des tout-petits-enfants, puisqu'il est parlé de ceux qui t'aident. En effet, la parole de Dieu accorde un très haut crédit à la personne de l'enfant et du petit-enfant. Toujours, chers amis, nous devons respecter l'enfant. Nous devons respecter la personnalité d'un enfant. Que Dieu nous garde d'employer des termes souvent méprisants pour parler de ces petits, et nous connaissons tous les mots que l'on ose employer pour les définir. Un chrétien a un témoignage à rendre à cet égard. Nous ne pouvons pas parler d'un petit enfant n'importe comment, nous devons le respect à la personnalité de l'enfant, du petit enfant. La parole de Dieu nous montre l'enfant comme étant un modèle. Dans différents domaines, nous en citons trois. Nous avons tout d'abord trois domaines, chers amis. La conversion, l'adoration et la nourriture de nos âmes. Ce sont les trois domaines où l'enfant est présenté à l'homme comme un modèle. La conversion. Nous connaissons tous le passage de Matthieu 18 qui nous dit ceci, un chapitre où il est beaucoup parlé du petit enfant. Matthieu 18, le Seigneur Jésus dit au verset 3, tout d'abord, Jésus ayant appelé auprès de lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, en vérité, je vous dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est solennel cela, chers amis. Si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez pas tel qu'un petit-enfant, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Donc, il faut devenir un petit-enfant. Qu'est-ce qui caractérise le petit-enfant ? Il croit. Il croit sur parole, c'est ce qu'on a appelé la foi native de l'enfant. Il croit sur parole, il ne discute pas du reste. Le Seigneur Jésus, un jour, a rendu grâce à Dieu son Père en disant « Ô Père, Seigneur des cieux et de la terre, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux petits-enfants. » Le petit enfant est celui qui ne discute pas, qui ne raisonne pas, qui met de côté son esprit. Il croit ce que Dieu dit ou ce qu'on lui dit de Dieu. Il le croit sur parole et nous-mêmes, chers amis, nous avons à refléter quelque chose de cette foi de l'enfant. Sans cette foi, nous n'en ferons jamais. Ceux qui ne sont pas encore entrés dans le royaume des cieux ici ce soir, ceux qui n'ont encore jamais mis leur confiance dans le Seigneur Jésus, le Sauveur parfait que Dieu nous a donné. ceux qui ne connaissent absolument rien de l'amour de Dieu pour le pécheur, ceux-là n'entreront jamais dans le royaume des cieux, à moins qu'ils se convertissent et qu'ils deviennent comme un petit enfant, faisant abstraction de toute discussion, de tout raisonnement naturel, pour croire simplement Dieu sur parole. Il y a les sages et les intelligents dont parle le Seigneur Jésus, ce sont ceux qui s'appuient sur leur intelligence naturelle. Puis il y a les petits-enfants, c'est précisément ceux qui ont mis leur confiance, sans discussion aucune, dans la parole de Dieu, dans la parole du Seigneur Jésus. Fruit pas extraordinaire qu'il y a eu au siècle passé, les hommes de Dieu, et encore au début de celui-ci, d'immenses savants, connaissant toutes choses, pouvant parler de toutes choses, et avec une claire intelligence, ces hommes-là ont fait abstraction de cette magnifique intelligence, don de Dieu quand même. Ils ont fait abstraction de cette intelligence pour devenir comme un petit enfant, mettant leur entière confiance dans les paroles de Dieu, dans les paroles de Jésus, sans discuter. Ils faisaient abstraction de toute leur intelligence naturelle pour croire simplement Dieu sur parole. Cela ne nous parle pas. Et puis il faudrait qu'on ne se souvienne pas de tels conducteurs. Il faudrait qu'on nous fasse le reproche qu'on parle trop souvent de ces conducteurs et trop souvent de nos devanciers. Pas du tout, chers amis. Quand on pense qu'il a été donné à de tels hommes de Dieu, nous ne pouvons que nous souvenir de nos conducteurs. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne connaisse pas le Seigneur Jésus, qui n'a pas mis sa confiance en lui, en vue du salut de son âme? Chers amis, vous êtes exhortés, appelés à vous convertir et à devenir tel qu'un petit enfant. Alors, sans le moindre doute, vous entrerez dans le royaume des cieux. Voilà, chers amis, le premier, disons, domaine où l'enfant nous est présenté comme modèle. La conversion, devenir un petit enfant pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Deuxième domaine, l'adoration. C'est ce que nous avons dans notre verset. Il est parlé de la force, mais on peut traduire par louange, comme la note au bas de la page le dit. Par la bouche des petits enfants et de ceux qui t'aiment, tu as fondé ta force ou ta louange. Et nous lisons le passage de l'Évangile selon Matthieu où ce verset est cité. Chapitre 21 de l'Évangile selon Matthieu. Le Seigneur Jésus est entré dans le temple, il a renversé les tables, les sièges, en disant « Ma maison sera appelée une maison de prière, vous en avez fait une maison de voleurs, une caverne de voleurs. » Et voici que des aveugles, des boiteux viennent à lui dans le temple, alors la grâce du Seigneur se magnifie, le Seigneur les guérit. Mais les principaux sacrificateurs, eh bien ce sont ses ennemis et ses vengeurs dont parle notre psaume. Les sacrificateurs et les scribes, voyant les merveilles qu'ils faisaient, les enfants criant dans le temple et disant « Hosanna au fils de David », ils en furent indignés et lui dirent « Entends-tu ce que ceux-ci disent ?» Et Jésus leur dit « Sans doute, n'avez-vous jamais lu par la bouche des petits enfants de ceux qui t'aident, tu as établi ta louange ?» C'est le verset 16 du chapitre 21 de Matthieu. Et le Seigneur, les ayant laissés, sort de la ville, s'en va à Béthanie, où il trouvera alors des cœurs vibrants à l'unisson avec lui-même, et où il passera la nuit. Eh bien, ces scribes et ces principaux sacrificateurs voudraient faire taire ces petits-enfants qui sont là, chantant les louanges de Jésus, disant « Hosanna au fils de David ». Et Jésus les justifie pleinement en leur disant, c'est l'accomplissement du psaume 8, par les petits-enfants et par ceux qui t'aident, tu as établi ta louange. Celui qui croit au Seigneur Jésus devient un enfant de Dieu. Il est un racheté du Seigneur Jésus. Il est plus que cela un adorateur. Et voici le petit-enfant dans le sens de la louange qui nous est présentée comme modèle. Comme le petit enfant un jour a crié en disant « Hosanna, gloire au fils de David », eh bien ainsi nous-mêmes, chers amis, nous avons également à rendre gloire à Jésus, adorer Jésus. Qu'est-ce que c'est que le culte chrétien? Le culte chrétien, c'est rendre gloire, rendre hommage à Jésus, le Fils de l'amour du Père. Voilà pourquoi on parlera volontiers de la personne de Jésus qui est le centre de la louange des chrétiens. Adorant Dieu leur Père, ils offrent à Dieu le Père des sacrifices spirituels qui sont agréables à Dieu. Pourquoi ça? Toujours, toujours agréables à Dieu. Pourquoi? Parce que ils lui sont offerts par Jésus-Christ. 1 Pierre 2 le dit absolument nettement. La conversion, l'adoration, et puis alors, dans cette même première épître de Pierre, nous avons la nourriture de notre âme. Nous avons affaire comme un enfant, comme un petit enfant, comme un petit enfant qui tète, comme un nouveau-né. Voilà ce que nous avons affaire quant à notre âme. Là encore, l'enfant nous est un exemple. 1 Pierre 2 commence par une exhortation négative. Nous avons à rejeter 5 choses, toute malice, toute fraude et l'hypocrisie, et l'envie et toute médisance. Voilà le côté négatif de l'exhortation, très important, chers amis. Et puis le côté positif, alors, désirer ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le pur lait intellectuel, afin que vous croissiez par lui à salut. Si toutefois, vous avez goûté que le Seigneur est bon. Eh bien, chers amis, puissions-nous penser à notre âme, nourrir notre âme. Et voici que l'Esprit de Dieu vient placer devant nous l'exemple du petit enfant, même du nouveau-né, dans son ardeur, désirant ardemment ce qui fait sa nourriture délicieuse. De la même façon, chers amis, nous devrions montrer cette ardeur vis-à-vis de la nourriture de nos âmes, c'est-à-dire ce pur lait intellectuel, la parole de Dieu lui-même. Cette parole qui nous révèle combien le Seigneur est bon. Alors nous pourrons croître, il y aura un accroissement vraiment à la gloire de Dieu. Notre âme se développera de plus en plus durant notre vie et un accroissement qui sera à la gloire de Dieu, cela va sans dire. Eh bien, chers amis, retenons d'abord ces trois domaines où l'enfant nous est présenté comme étant un modèle, la conversion. Si on ne veut pas devenir un petit enfant, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas d'entrée possible dans le royaume des cieux. Deuxièmement, l'adoration. Et troisièmement, la nourriture de nos âmes, désirant avec ardeur une telle nourriture, ce pur lait intellectuel. Il y aurait bien à dire sur les passages du Nouveau Testament où il est parlé du lait de cette nourriture qui nous est absolument nécessaire. Mais nous nous éloignerions trop de notre sujet et cela pourrait prendre un peu de temps. Nous avons ensuite, dans ce psaume 8e, nous avons une grande vérité, chers amis. Il est parlé « Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme que tu le visites ?» Voici le psalmiste qui considère les cieux, la voûte des cieux. Il est littéralement ébloui en voyant ces merveilles qui roulent dans la voûte des cieux. Je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées. Alors, il se demande véritablement, mais qu'est-ce qu'il faut faire de l'homme? Il s'agit là maintenant de l'homme qui n'ont pas l'œuvre parfaite de Dieu en création, mais de cet homme qui a transgressé le commandement divin, et à cause de cette transgression, le péché est entré dans le monde. D'où la question, qu'est-ce que l'homme? Est-ce qu'il vaut la peine de faire grand cas de cette créature-là? Mais tout d'abord, il nous est parlé des arts, et il est dit, l'ouvrage de tes doigts, chers amis. Il est remarquable de voir que le doigt, ou les doigts de Dieu, sont mentionnés en rapport avec les grandes économies de Dieu. Ici, nous avons la création. Et cette création est présentée comme étant le fait des ajustements, des mouvements des doigts de Dieu. Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées. Arrivons à l'économie de la loi nous est aussi présentée comme ayant été écrite du doigt de Dieu. Cela est clairement dit au chapitre 31 de l'Exode, le dernier verset, Exode 31, le verset 18e. Exode 31, verset 18, et lorsque Dieu eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Et cette pensée, nous la retrouvons au livre du Deutéronome, au chapitre 9e. Au livre du Deutéronome, au chapitre 9e, au verset 10, il nous est dit ceci, c'est Moïse qui parle. « Je ne mangeai point de pain, et je ne bus point d'eau, et l'Éternel me donna les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Et sur elles étaient écrites toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de la congrégation. » Économie de la grâce, chers amis. Que dit le Seigneur Jésus quand il passe sur la terre, on l'accuse de faire des miracles par le chef des démons, par Belzébul, alors le Seigneur de répondre, si je chasse les démons par le doigt de Dieu, eh bien, si vous le croyez, le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. En fait, le royaume de Dieu était là, sur la terre. Le Seigneur Jésus était ce royaume, l'expression même de ce royaume, et le royaume de Dieu était au milieu du peuple. Il est là, il est venu, il est au milieu de vous, dira un peu plus loin le Seigneur Jésus. Ce passage est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 11e. Au chapitre 11e, il nous est dit ceci, verset 20. « Mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. » C'était l'expression de la grâce de Dieu communiquée par le Seigneur Jésus lui-même. D'une part, il chassait les démons, d'autre part, il guérissait de nombreux malades, atteint des maladies les plus variées, et comme disent les évangiles, il les guérit tous. C'est là l'expression de la grâce. Et enfin, un passage où alors il nous est parlé du jugement de Dieu, et d'un jugement solennel, et d'un jugement qui s'est exécuté, pour ainsi dire, séance tenante. Nous connaissons tous le récit de la mort du roi Belshazzar. Au chapitre 5 du livre de Daniel, on est là, assistant à un grand banquet. On a profané les vases d'or qu'on avait tirés du temple de la maison de Dieu, qui était à Jérusalem. Chapitre 5 du livre de Daniel, et voici pendant que l'on boit, et pendant qu'on loue les dieux d'or et d'argent, tout d'un coup les doigts d'une main d'homme sortir et écrivir vis-à-vis du champ de Dieu sur le plâtre de la muraille du palais du roi, et le roi vit l'extrémité de la main qui écrivait. C'est la main de Dieu, chers amis. Ce sont là les doigts de la main de Dieu écrivant sur cette muraille des choses terrifiantes, puisque le roi lui-même a été littéralement terrorisé, changé de couleur. Il s'agissait maintenant de savoir ce que voulait dire cette écriture. C'était quelque chose d'extraordinaire de voir ses doigts, les doigts de cette main écrivant sur cette muraille. Dans cette salle de festin où on se donnait à un abondant banquet, où l'on buvait abondamment et surabondamment, tout d'un coup, voici cette écriture qui apparaît. C'est à Daniel qu'il fut donné de comprendre ce qu'était cette écriture. L'interprétation est à la fin du chapitre, au verset 25e. Et voici l'écriture qui a été tracée, menée, tekel, upharsin, Voici l'interprétation des paroles. Mené, Dieu a compté ton royaume et y a mis fin. Séquel, tu as été pesé à la balance et tu as été trouvé manquant de foi. Et finalement, Phérès, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Les pensées solennelles, c'est lui-même, Belshazzar, est tombé mort. La parole de Dieu dit qu'il a été tué cette nuit-là. Que s'est-il passé dans son âme entre l'apparition de la mystérieuse écriture et l'heure de sa mort, nous ne savons pas. Mais la pensée est solennelle, très solennelle, chers amis. Ainsi donc, le doigt de Dieu en rapport avec la création, en rapport avec la loi, en rapport avec la grâce et en rapport avec le jugement. Et un jugement inexorable, un jugement qui s'est exécuté pratiquement à l'instant même. Alors, en présence de ces astres que le droit de Dieu a splendidement placés dans l'étendue, il y a l'homme sur la terre. Qu'est-ce que l'homme, dit le psalmiste, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme que tu le visites? D'après notre psaume, nous disons bien, chers amis, d'après notre psaume, et si nous n'avions que ce psaume, nous ne verrions que la création magnifique de Dieu, et puis d'un autre côté, l'homme et le triste état de l'homme. Et pourtant Dieu, on en avait fait une créature véritablement en soi-même parfaite. Qu'est-ce que l'homme? Il y a trois autres passages qui nous parlent où il y a cette question posée. Job, bien avant David, l'a posée. Job, au chapitre 7 de son livre, dit ceci. Le verset 17. Qu'est-ce que l'homme que tu fasses grand cas de lui et que ton cœur s'occupe de lui et que tu le visites chaque matin et que tu l'éprouves à tout moment? Puis, notre psaume 8, troisième passage, le psaume 144. Le psaume 144, verset 3. Psaume 144, verset 3. Éternel, qu'est-ce que l'homme que tu prennes connaissance de lui? Le fils de l'homme que tu tiennes compte de lui? L'homme ressemble à la vanité, ses jours sont comme une ombre qui passe. Et le quatrième passage, dans le livre du prophète Ésaïe, à la fin du chapitre deuxième. Alors, il y a là une déclaration catégorique. Ésaïe chapitre 2, tout à la fin de ce chapitre, il nous est dit, verset 22, « Finissez-en avec l'homme dont le souffle est dans ses narines, car quel cas doit-on faire de lui? » L'homme, au milieu de cette splendide création, est devenu un pécheur. Et les Écritures du Nouveau Testament disent à deux reprises qu'il est mort. Il n'est même pas un pécheur vivant, il est mort. Il est mort dans ses fautes et dans ses péchés. Voilà ce qu'est devenu l'homme. Qu'est-ce qu'il faut faire avec une créature semblable? Qu'est-ce qu'il faut faire avec... On comprend les questions posées soit par Job, soit par David, et cette déclaration ultime du prophète Ésaïe, on comprend fort bien. Alors, dans ce verset, nous arrivons véritablement au nœud de l'enseignement du psaume. L'apôtre Paul est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, parlant de ce verset 4, qu'est-ce que l'homme que tu te souviens de lui et le fils de l'homme que tu le visites? Alors, ces serviteurs de Dieu sont amenés à parler non pas de l'homme pécheur, mort dans ses fautes et dans ses péchés, mais de la mention de l'homme et du fils de l'homme. L'apôtre Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, sont amenés à penser à celui qui est l'homme des conseils de Dieu, à celui qui est venu sur cette terre, le Fils de l'homme qui a souffert, qui a beaucoup souffert, qui est mort sur la croix. On en arrive ainsi à voir dans cet homme, ce Fils de l'homme, quelqu'un d'extrêmement supérieur, le Seigneur Jésus lui-même, le Fils de l'homme, d'une part l'homme des conseils de Dieu, et d'autre part celui qui a marché sur cette terre et a réalisé pleinement ce que l'homme devait à son Créateur, le Seigneur, homme parfait, a parfaitement glorifié Dieu son Père sur cette terre. Et ainsi, chers amis, conduit surtout par l'enseignement de l'Épître aux Hébreux, on est amené à voir dans ce passage le Seigneur Jésus lui-même. D'où l'appellation de ce psaume, un psaume messianique qui annonce l'arrivée du Messie, ou devant souffrir, ou devant régner. Et en effet, au verset 5, il est dit « Tu l'as fait de peu inférieur aux anges ». Voilà, chers amis, c'est quelques mots tout simple pour définir l'humiliation profonde dans laquelle notre Seigneur a vécu. Il a été fait, voilà l'abaissement qu'il a dû connaître, lui, le Créateur, il a été fait de peu inférieur aux anges. Et puis, par-delà la mort et par-delà la résurrection, exalté à la droite de Dieu, il est là, couronné de gloire et d'honneur. Notre psaume 8e parle de la création d'Adam, et qu'effectivement, il a été couronné de gloire et d'honneur, mais conduit par l'Esprit de Dieu. Cela est une merveille, chers amis. Quand on lit les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est une merveille. Conduit par l'Esprit de Dieu, nous voyons dans ce verset, d'une part, son humiliation profonde, et puis d'autre part, alors, son exaltation à la droite de Dieu, de telle sorte que maintenant, le croyant, regardant vers en haut, voit Jésus. L'apôtre est heureux de pouvoir dire « Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur ». Cette personne de Jésus est mentionnée plus d'une fois dans l'Épître aux Hébreux, nous le savons. En tout cas, à 9 reprises, nous trouvons le nom de Jésus, mais le nom de Jésus tout seul. Il y a bien l'expression « Jésus-Christ », il y a bien le Seigneur Jésus, c'est vrai. Mais le nom de Jésus tout seul, Jésus de Nazareth, l'homme Jésus de Nazareth, les frères auxquels l'apôtre écrit devaient savoir qu'il est celui qui est maintenant en Christ céleste, il est assis à la droite de Dieu le Père, il est là couronné de gloire et d'honneur. Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. Et le psalmiste continue, « Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds, les brebis et les bœufs tous ensemble, et aussi les bêtes des champs, l'oiseau des cieux et les poissons de la mer, ceux qui passent par les sentiers des mers. » Nous avons là l'expression de la domination universelle qui a été tout d'abord confiée à l'homme créé, à l'homme innocent. Nous connaissons tous le passage du premier chapitre du livre de la Genèse où il nous est dit ceci. Genèse 1, nous lisons intentionnellement le passage. Verset 28 de Genèse 1, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Fructifiez et multipliez et remplissez la terre et la sujettissez. » Et dominer sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Nous avons là la domination universelle confiée à l'homme qui a été créé, à l'homme innocent. Mais la transgression a été, hélas, réalisée par Adam. Il a transgressé le commandement divin, et le péché est entré dans le monde. Et sa descendance a été ainsi contaminée, le péché, et la conséquence du péché, la mort. Et puis, la violence et la corruption ont rempli la terre jusqu'au jour où Dieu intervient et détruit tout par le déluge, sauf un homme et sa famille. Un homme, c'est Noé. Alors, le déluge ayant tout détruit, à qui est-ce que la domination universelle est confiée? Elle est confiée à l'homme de foi, non plus à l'homme innocent. Il n'existe plus l'homme innocent. Tout homme est pécheur. À l'homme de foi qu'a été Noé. Et nous lisons ce deuxième passage au chapitre 9e du livre de la Genèse. Premier verset du chapitre 9 de la Genèse, « Et Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, fructifiez, multipliez, remplissez la terre, et vous serez un sujet de crainte et de frayeur pour tout animal de la terre, et pour tout oiseau des cieux, pour tout ce qui se meut sur la terre, aussi bien que pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. » Voilà la domination universelle confiée à l'homme de foi, chers amis. Quelle récompense pour celui qui est un homme de foi. Noé l'a été. L'épître aux Hébreux lui rend témoignage par la foi. En faisant une arche, il a condamné le monde. Par la foi. Eh bien, c'est à l'homme de foi que maintenant revient la domination universelle. Et puis, à nouveau, les choses se gâtent. L'idolâtrie intervient. On s'adonne au culte des faux dieux et des démons. Et le monde est caractérisé par l'orgueil et la corruption morale. Le monde est caractérisé ainsi jusqu'au jour où d'entre les nations, Noé a eu trois fils, Sem, le peuple juif, Cam, les peuples noirs, et Japheth, les peuples blancs. Toute la population sur la terre est représentée dans les trois fils de Noé. Mais voici que l'on s'adonne à l'idolâtrie, et Dieu, du milieu de tous ses peuples, tire pour lui-même un peuple. Un peuple à part, le peuple d'Israël, et à ce peuple, il donnera un roi, puis un autre, et puis des rois. Et l'apogée glorieuse du point de vue royal pour le peuple d'Israël sera le royaume de Salomon. Le roi Salomon n'a pas eu la domination universelle, mais il l'a eu sur le plan intellectuel, en vertu de son immense savoir et de son immense érudition. Et ainsi il a été donné à Salomon. Salomon ne pouvait pas avoir la domination universelle. Le Seigneur Jésus a dit sur la terre, il y a ici un plus grand que Salomon. Elle serait pour quelqu'un d'autre, plus grand que Salomon. Salomon n'a pas eu effectivement, comme Noé, la domination universelle, mais il a pu parler dans la science que Dieu lui avait donnée, il a pu parler de la domination universelle. Et en effet, au premier livre des Rois, au chapitre 4e, nous lisons ceci. En Rois 4, le verset 33. Il parla sur les arbres, depuis le cèdre qui est sur le Liban, jusqu'à l'hysope qui sort du mur. Et il parla sur les bêtes, et sur les oiseaux, et sur les reptiles, et sur les poissons. Il parla sur tout ce qui court sur cette terre, sur tout ce qui vole, sur tout ce qui rampe, sur tout ce qui nage. Il parla sur les bêtes, sur les oiseaux, sur les reptiles, et sur les poissons. Et au début de cet alinéa, il est dit, verset 29, que Dieu donna à Salomon de la sagesse, et une très grande intelligence, et un cœur large comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et la sagesse de Salomon était plus grande que la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse de l'Égypte. Et nous savons la fin du roi Salomon, fin profondément attristante. Ce roi Salomon a fini pas seulement dans l'infidélité, mais dans l'idolâtrie. Ce jeune roi qui au début de sa carrière demande à Dieu « Donne-moi un cœur sage », il finit tel qu'un idolâtre. Il fut un roi idolâtre. Il y eut des rois après lui. Il y a eu le terrible schisme que nous connaissons. Il y a eu des rois parmi eux. Il y a eu quelques rois fidèles. Ézéchias, Josias, nous aimons à lire l'histoire de leur règne. Surtout en pensant à Ézéchias. Il y a là quelque chose de magnifique en rapport avec la grâce de Dieu. Un conducteur a dit qu'Ézéchias a eu le pire des pères dont parle toute la parole de Dieu. Il emploie exactement ce mot, le père d'Ézéchias fut le plus abominable des pères. Et l'on voit ce fils, jeune homme, âgé de 25 ans, on voit ce jeune roi qu'elle a d'emblée décidé pour Dieu et pour la cause de Dieu, et son règne fut un règne plein de lumière. Il a marqué marqué le temps d'un très beau réveil dans l'histoire du peuple de Juda. Le père a été un homme abominable. Et voici que la grâce de Dieu se magnifie en suscitant l'un des fils de ce père et en faisant un roi combien fidèle qui a agi à la gloire de son Dieu. Et puis nous arrivons alors jusqu'à la fin de ce royaume de Juda, et la fin fut terrible. Le dernier chapitre du deuxième livre des Chroniques dit ceci: « La fureur de l'Éternel monta contre ce peuple, et il n'y eut plus de remède. » Et ce fut alors la douloureuse captivité à Babylone, durant 70 années. Le prophète Daniel nous donne le tableau de ces quatre monarchies. Tout d'abord, à Babylone, le roi Nebuchadnezzar, ensuite Assur, le roi Darius, ensuite Assur encore, le roi Alexandre Ier, et puis Rome, l'empire romain dans le passé, mais empire qui renaîtra bientôt et auquel le livre de l'Apocalypse donne le nom de bête. C'est la bête romaine, agissant toujours de concert avec un triste personnage qui s'appelle l'Antichrist. Alors, Dieu montre, il le dit à Daniel, comment l'autorité, la domination universelle est alors confiée non plus à Israël ou à un roi d'Israël, mais aux empires, aux monarchies gentiles. Nous lisons en effet dans Daniel 2, nous arrivons au terme de notre méditation, chers amis. Verset 37 de Daniel 2, « Toi, ô roi, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le royaume, la puissance et la force et la gloire, et partout, toi, dites les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux des cieux, il les a mis entre tes mains et t'a fait dominer sur eux tous. » Voici Nebuchadnezzar, auquel est confiée la domination universelle. Ces monarchies se sont succédées, dans l'avenir encore, et nous savons tous quelle sera la fin de cette bête romaine, jetée avec l'Antichrist dans l'étang de feu et de soufre. Alors, à qui sera la domination universelle? Le Seigneur lui-même. Et c'est le livre de Daniel qui le dit encore, verset 44 du chapitre 2 de Daniel. « Et dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il boira et détruira tous ses royaumes, et lui, il subsistera à toujours. » Et voilà la domination universelle, enfin confiée à celui qui seul en est digne, le Fils de l'homme, l'homme de la droite de Dieu, comme il est dit au psaume 80. Eh bien, c'est ce que nous avons dans ce psaume 8e, c'est ce que nous avons. Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains, Adam l'a réalisé pour un petit moment, ensuite Noé, ensuite Salomon, du point de vue intellectuel, ensuite les monarchies, Nebuchadnezzar particulièrement, et tous ces royaumes disparaissent, il sera vu alors que seul est digne de la domination universelle le Seigneur, roi des rois et seigneur des seigneurs. Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds, les brebis, les bœufs, tous ensemble, et aussi les bêtes des champs, l'oiseau des cieux et les poissons de la mer, ceux qui passent par les sentiers des mers. Et voilà comment ce psaume 8e est une exaltation remarquable de la personne du Seigneur Jésus, de celui qui un jour aura, d'une manière visible et éclatante, aura la domination universelle sur tous et sur tout. Véritablement, notre Seigneur sera cela, il sera vu dans cette gloire universelle, pas seulement dans la gloire du millénium. Un règne qui fait penser plus spécialement au peuple d'Israël. Cela est parfaitement vrai, la gloire millénaire, nous aimons en parler, nous en avons chanté quelque chose dans nos cantiques. Mais le psaume 8 va plus loin encore, c'est la domination éternelle, L'adjectif éternel veut dire ce qu'il veut dire. Éternel, une domination pour toujours. Pas seulement 1000 ans, chers amis, mais pour toujours. Et le psaume 8e nous donne le tableau de cette domination universelle dont seul le Fils de l'homme est digne et sera digne. Nous comprenons, chers amis, la parole d'introduction de ce psaume. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Et nous comprenons la conclusion de ce psaume. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Au début, c'est la puissance en création de Dieu qui est célébrée, mise en évidence, et le psalmiste ne peut pas dire autre chose que cela, et combien c'est juste. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Mais alors, au jour de la gloire millénaire, au jour de la domination universelle de notre Seigneur, il y aura ce même cantique d'adoration qui retentira, ce magnifique cantique, très bref, mais combien très beau. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Le nom qui aujourd'hui sauve, chers amis. Ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom qui aujourd'hui encore sauve. C'est le nom qui rassemble. C'est le nom qui, pour le chrétien, dans la gloire du ciel, remplira les cieux. Eh bien, sur la terre, il sera vu toute la grandeur et la beauté d'un tel nom. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Eh bien, chers amis, en pensant soit à la création de Dieu, sujet principal du psaume 8, en pensant à ce que les auteurs du Nouveau Testament disent du psaume 8e, il aura été donné de comprendre, de saisir une interprétation autrement supérieure. Eh bien, chers amis, on peut bien dire, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Tout le monde le dira, on le dira. Au jour de la gloire millénaire, plus tard encore, véritablement, dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre, alors retentira encore cette admirable adoration éternelle. Notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Que le nom du Seigneur Jésus soit précieux à nos cœurs aujourd'hui, mais qu'il soit précieux à nos cœurs tandis que nous pensons à la gloire qui sera celle de ce nom dans les jours à venir sur la terre, pas seulement dans les cieux, mais sur la terre. Et tous pourront dire, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Nous connaissons tous le nom de Jésus, le Sauveur, le nom qui sauve. Nous pourrions tous ce soir parler du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Pas seulement le Fils de Dieu qui aime les hommes ou bien qui nous aime, qui nous a aimés, mais tout cela est vrai, mais parler personnellement du Seigneur Jésus, reconnaître qu'il est mon Sauveur, rendre gloire au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, que le Seigneur, dans sa grâce infinie, nous l'accorde à tous, jeunes gens, vous qui êtes moins jeunes, à tous ici, à tous, qu'il soit donné, en effet, de connaître cette conversion, de devenir comme un petit enfant, pour alors pouvoir, à coup sûr, entrer dans le royaume des cieux.